Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Clémence Alezard, mais aussi Samuel Bernard, Tiffaine de Rucuni, Juliette Gadeau, réalisée par Charles Le Gargasson et mise en onde ce matin par Jean Frédéric. On poursuit notre série consacrée à la peine de mort. Alors que nous recevions hier une femme et un homme, une Ougandaise et un Américain rescapés des couloirs de la mort, on va se diriger ce matin vers l'Iran, l'un des pays qui exécute le plus les condamnations à la peine capitale. L'Iran, une frénésie morbide. C'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Hélas, à ce jour, le gouvernement n'a pas accepter d'entendre raison sur la suspension des exécutions. Et si ce mouvement perdure, nous pouvons nous attendre à un accroissement du nombre d'exécutions. Comme vous le savez, l'Iran détient le triste record des exécutions de mineurs dans le monde. Si on prend le nombre d'exécutions capitales dans le monde, nous arrivons en deuxième lieu après la Chine. Aussi bien pour les exécutions de délits de droit commun que pour des délits d'opinion politique.
Cette voix que vous entendiez, c'était celle de Shirin Ebadi, avocate iranienne, prix Nobel de la paix en 2003 pour son combat pour les droits de l'homme, pour son œuvre sur la défense des enfants et des femmes. À l'occasion de la parution d'un récent rapport publié par les Nations Unies, son secrétaire général Ban Ki-moon a déploré la situation iranienne, se disant profondément troublé par le taux alarmant, disait-il, d'exécution de condamnés à mort. En effet, dans son dernier rapport, Amnesty International comptabilisait 977 exécutions pour 2015, contre 743 l'année précédente, faisant de l'Iran le pays qui exécute le plus si l'on met de côté la Chine, dont il est impossible d'avoir des chiffres précis. Alors comment comprendre cette explosion des exécutions? Il y a quelques jours, environ 150 députés ont signé une proposition d'amendement destinée à réduire les condamnations à mort pour trafic de drogue. La plupart des peines capitales s'y rapportant. Pour l'année 2013, par exemple, 70% des peines capitales étaient prononcées contre des trafiquants. Alors qu'est-ce qu'on peut en attendre? Des améliorations sont-elles envisageables? Et quel bilan pour le président Rouhani qui avait promis des avancées en la matière? En 1988, quelques jours seulement après la fin de la guerre Iran-Irak, le fondateur de la République islamique d'Iran, l'ayatollah Khomeini, émettait une fatwa ordonnant l'exécution de tous les moudjahidines du peuple emprisonné. En moins de 3 mois, ce sont plus de 33 000 personnes qui sont exécutées dans les prisons du pays après des procès expéditifs. La première nuit, ce sont 3 800 personnes qui périssent dans les prisons de la capitale, jeunes, des 13 ans, des femmes enceintes, des hommes, des vieillards. Et si finalement, rien n'avait tellement changé depuis? La peine capitale est-elle toujours utilisée, instrumentalisée par le régime pour réprimer l'opposition? Et comment? Voilà les questions sur lesquelles on se penche ce matin. Pour ce faire, nous avons avec nous deux invités. D'abord, Azadeh Kian, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes sociologue à l'Université Paris 7. À vos côtés, Nader Vahabi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, vous, enseignant-chercheur associé au Centre d'analyse et d'intervention sociologique de l'EHESS. Alors, on va commencer par l'actualité. Je le disais récemment, 150 députés ont signé une proposition d'amendement pour commuer les condamnations à la peine de mort d'individus poursuivis pour trafic de drogue en peine de prison. La grande majorité de ceux qui ont été exécutés ou qui sont dans le couloir de la mort sont de petits dealers, primo-condamnés, et leur mort s'avère désastreuse pour leur famille, a expliqué il y a quelques jours, le 4 octobre dernier, un député Jalil Rahimi Janaabadi. Est-ce que cet amendement a une chance d'être voté ou est-ce que c'est voué à l'échec? Azadeh Kian.
Je pense que cet amendement a toutes les chances d'être voté, surtout par le nouveau Parlement. Et d'ailleurs, si on lit Monsieur Ardeshir Larijani, qui est responsable de la Commission des droits de l'homme de l'Iran, qui est gouvernemental, hein, bien sûr, et dont le frère préside le Parlement et l'autre frère préside le judiciaire. Hein. Effectivement, il allait dans le même sens en disant que la majorité écrasante des cas d'exécution concerne les petits et moyens trafiquants de drogue, et ceux-là ne doivent pas être exécutés, doivent être emprisonnés. En revanche, il faut qu'on exécute, enfin, il maintient quand même la peine capitale pour les grands trafiquants. Donc, effectivement, il ne faut pas oublier que la société iranienne aussi commence à changer, commence à se positionner de plus en plus contre la peine capitale, en particulier pour les peines pour les trafiquants de drogue, par exemple, ou les peines moins, je dirais, lourdes que, par exemple, les peines d'exécution qui sont prononcées pour le viol ou le meurtre. Et en revanche, on a même vu c'est aussi ces dernières années des parents des personnes, enfin des victimes, qui ont pardonné le meurtrier, et donc ainsi le meurtrier a échappé à la peine capitale. Il faut qu'on explique à vos auditeurs que la loi, que le code pénal iranien est calqué sur un modèle islamique, et que donc dans les cas de meurtre ou de viol, etc., la famille ou les proches des victimes ont leur mot à dire. Ils peuvent pardonner ou ne pas pardonner, et auquel cas le meurtrier sera exécuté ou échappera à la peine capitale. Donc c'est un autre système très différent du système qu'on connaît par exemple en France.
Il y a notamment cette question de ce qu'on appelle le prix du sang, c'est-à-dire
le prix du sang.
De l'argent. Là, tout ça se fait évidemment dans un dialogue, dans une discussion avec les familles des victimes, mais on peut échapper à la condamnation à mort en payant.
En payant.
Sous condition, bien sûr.
Sous condition, tout à fait.
Nader Vahabi, est-ce que vous êtes aussi optimiste qu'Azadeh Kian ? Visiblement, alors elle nous parlait de la question de l'opinion qui est en train de changer, mais en tout cas, du côté du politique, on voit qu'il y a des oppositions très fortes à cet amendement. On a le ministre de la Justice qui est issu du camp conservateur, qui est Mostafa Pour Mohammadi, dont on va parler tout à l'heure parce qu'il est impliqué dans ce fameux massacre de 1988, sur lequel on reviendra. On a aussi le chef du pouvoir judiciaire, Saadeh Larijani, qui a l'air aussi opposé à cet amendement. Donc on voit que les conservateurs font bloc là-dessus. Par ailleurs, si le projet passait l'étape du Parlement, il y a aussi le blocage éventuel du Conseil des gardiens de la Constitution. Est-ce que vous êtes aussi optimiste que Azadeh Kian, et vous pensez que cet amendement peut passer?
Il faut contextualiser à ma connaissance cette problématique. Le problème n'est pas nouveau. Et il y a un an, novembre 2015, suite à une réunion de commission de droits de l'homme des Nations Unies, que M. Larijani, qui était le secrétaire de l'État iranien sur la question des droits de l'homme, attaché au pouvoir judiciaire. Donc, et suite à cette réunion, dans une interview, il a précisé que, oui, effectivement, vous, le nombre important d'exécutions sur la question de, comment dire, les drogués de drogue, etc., on va envisager de changer la loi. Et suite à ça, exactement décembre 2015, il y a eu 70 parlementaires. Ils ont proposé les mêmes lois en ce qui concerne la peine de mort pour les trafiquants de stupéfiants. Mais cette année, vu que le nombre important, 150, selon certaines sources, il va remonter jusqu'à 200 personnes, à ma connaissance, il y a deux scénarios envisageables. Le premier scénario, la loi va passer au Parlement, va être validé par conseil constitutionnel. Le deuxième scénario auquel je suis attaché, la loi va passer au Parlement, mais il va être bloqué au conseil constitutionnel. À ma connaissance, pourquoi à ce moment précis que 150 députés ont proposé ce projet de loi? Parce que suite à un accord nucléaire entre l'Iran et l'Union européenne, et l'Occident, bientôt, il y a une négociation entre l'Iran et l'Union européenne sur la question du droit de l'homme en Iran. À ma connaissance, c'est une, comment dire, bonne foi, c'est une, comment dire, c'est une prise d'opposition par certains parlementaires qui sont plus ou moins dans l'aile modérée. Je pense que ce projet de loi va dans ce sens. Est-ce que finalement il va être bloqué? Je suis, comment dire, un petit peu pessimiste
plus
pour
pessimiste
ce projet.
Parce que
là, comment dire, il va être, comment dire, on a, pour dire de manière très simple, on a deux institutions en Iran. Le pouvoir judiciaire en Iran n'est pas attaché au présidentiel. Le pouvoir judiciaire, il est complètement sous la tutelle du guide suprême. Le guide suprême a dit le dernier mot en ce qui concerne la peine de mort en Iran.
Azadeh Kian, je vais vous laisser poursuivre parce que je vois bien que vous voulez répondre au pessimisme de Nader Vahabi avec peut-être une nouvelle vague d'optimisme, mais j'en profite quand même pour vous proposer aussi une autre question. Je disais tout à l'heure dans mon chapeau, 977 exécutions pour l'Iran en 2015. Quand on regarde un peu les chiffres de près, on voit que, regardons, tiens, l'année 2000, 75 exécutions. Ça veut dire que c'est 13 fois plus en 15 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment expliquer cette explosion? Est-ce que la question du trafic de drogue, de la consommation de drogue, suffit à expliquer cette explosion?
Bien sûr que non, mais je voudrais quand même vous dire que s'il est vrai que près de 1000 personnes ont été exécutées en 2015, mais cette année 2016, c'est-à-dire que d'octobre 2015 jusqu'en octobre 2016, le nombre des exécutions a diminué de 40%. Et je ne parle pas des peines d'exécution, qui, elles, ont même augmenté, mais je parle de l'exécution de ces peines. C'est-à-dire que ce qu'on peut voir, c'est pratiquement, dans la pratique, une sorte de moratoire sur l'exécution des peines capitales.
Moratoire, 977 exécutions l'année dernière, à
non, non,
on aura
année,
du mal à
non,
vous
non,
croire.
Non, non, je parle de cette année, oui, monsieur, oui, je parle de 2016, et ça, c'est grâce aux justement discussions qui sont...
Le principe du moratoire, c'est on n'applique plus. Hein. C'est pas on applique moins. Hein.
Non. C'est... Je peux... Ok, c'est pas moratoire pas pour qu'on n'exécute plus, mais pour qu'on diminue les exécutions.
C'est-à-dire qu'il y a un consensus pour dire qu'il faut diminuer le nombre d'exécutions.
Et ce qu'il y a, c'est que... effectivement, ça, ce sont les organisations de la défense des droits humains qui ont donné ces chiffres-là. Hein. C'est pas le gouvernement iranien, en l'occurrence. Ce qu'on constate, c'est que le dialogue avec l'Europe est quelque chose de très positif. Et d'ailleurs, pour mémoire, en 2003, certaines peines ont été suspendues, en particulier la peine de lapidation pour adultère a été suspendue du fait de la pression internationale et des dialogues, un dialogue très important avec l'Union européenne. En même temps,
il y a encore beaucoup d'efforts à Zadeh qui ont regardé.
Bien sûr, je ne dis pas.
Par exemple, sur la question des mineurs délinquants. Aujourd'hui, une fille dès l'âge de 9 ans, un garçon dès l'âge de 15 ans, ils peuvent être condamnés à mort et exécutés. Et c'est une violation absolument flagrante du droit international. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Téhéran balaye totalement le droit international. Ça n'a absolument aucun effet.
Y compris balaye les conventions internationales dont l'Iran est signataire. Je ne suis pas en train de dire qu'ils sont en train de respecter le droit humain. Ce que je suis en train d'émettre comme avis, c'est que à partir du moment où il y a de plus en plus de discussions, de dialogues, de négociations concernant les droits humains avec le gouvernement iranien, à partir du moment où à chaque fois qu'il y a un grand contrat qui est en train de signer entre l'Europe et l'Iran, si on discute des questions de droits de l'homme, eh bien, on peut s'attendre à ce que les Iraniens répondent, non pas toujours favorablement, mais ce que je suis en train de défendre, c'est le maintien de ce dialogue et de cette pression-là, d'autant qu'on constate que entre 2015 et 2016, octobre 2016, quand même le nombre des exécutions sommaires ont été diminués par 40%.
Nader Vahabi, Azadeh Kian a parfaitement raison de souligner cette dynamique. Ça va dans le bon sens, nous dit-elle. Elle concède évidemment qu'il y a encore des problèmes, qu'on ne respecte pas le droit international, mais elle nous dit, ça va plutôt dans le bon sens. Février dernier, on assistait à une poussée des réformateurs soutenue par le président Rouhani. On l'avait vu comme un signe positif d'ouverture du pays. Un de plus après l'élection en 2014 du président Rouhani. Finalement, quelles ont été les conséquences politiques de tout ça? Est-ce que ça a engendré, vous avez le sentiment, vous, une inflexion dans la politique iranienne et en particulier sur cette question de la peine de mort? Nader Vahabi.
Alors, d'abord, vous me permettez, je fais un bilan comparatif sur les trois périodes de trois présidents. Président Khatami, président Ahmadinejad et président, Rouhani. Pendant sous président, Khatami, on a eu 759 exécutions pendant 8 ans, en moyenne annuelle de 108 exécutés. Pendant 8 ans, en moyenne annuelle de 108 exécutés, individus. Sous mandat du président Ahmadinejad, de même, en 8 ans, nous avons eu 2226 exécutés en moyenne annuelle de 283 individus. En revanche, sous président Rouhani, pendant trois ans, il y a eu 2089 exécutés avec un moyenne annuelle de 696 individus. Le président Rouhani a battu un record dans l'histoire contemporaine de l'Iran. Pour, en ce qui concerne, la responsabilité du président Rouhani, pour les uns, il n'est qu'un, si vous voulez, pour dire d'une manière simple, il n'est qu'un cinquième roue de carrosse. Pour les autres, il est complice avec l'État iranien. Pourquoi il est complice? On n'a pas oublié, il y a deux mois dernier, donc on a eu 27 exécutés dans les camps de ethnie religieuse et ethnique de Kurdes qu'ils ont exécutés pendant un jour. De même, en août 2003, juste un mois après sa présidentielle, on a eu à peu près 16 exécutions en groupe Jandala à l'est de l'Iran. Je pense personnellement que le président Rouhani n'a aucun pouvoir sur le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire, il est complètement sous tutelle de guide suprême Ali Khamenei. Mais par contre, on peut reprocher le président Rouhani. Pourquoi? Parce que le ministère de renseignement, il est attaché au présidentiel. Et là, la tâche la plus importante du ministre de renseignement consiste à attaquer ou chasser opposants politiques. On a eu le cas d'exécution massive après presque, depuis 1988, on n'a pas eu exécution massive en ce qui concerne les prisonniers politiques. Pour la première fois, on a repris. Je pense personnellement...
Vous pensez qu'il y a des exécutions politiques là?
Absolument. Pour vous montrer un autre exemple, je vous donne un autre exemple. En 2009, lorsque le mouvement d'Over suite à un trucage électoral, Madame Kian Elsie, il a écrit un article. Lorsqu'il y a eu ce mouvement vert, en juillet 2009, le 4 et le 19 juillet 2008, il y a eu 20 personnes et 30 personnes exécutées. Deux jours consécutifs, et l'État a annoncé publiquement. Je sais, mon hypothèse est la suivante. L'État, l'exécution massive des individus de droit commun, particulièrement les drogués, ils sont liés à une instrumentalisation politique, ils sont liés à l'intimidation de la société iranienne pour éviter l'émeute et le mouvement social. Voilà.
Azadeh Kian, je vous laisse répondre parce que c'est vrai que là, il y a un bilan, un tableau qui a été dressé par Nader Vahabi qui n'est pas du tout favorable, c'est le moins qu'on puisse dire, à Rouhani, avec effectivement des exécutions par an qui ont explosé en réalité sur Rouhani quand on compare par rapport à la période Khatami et Ahmadinejad. Il nous le disait, Khatami 108 par an, Ahmadinejad 283 par an, et là avec Rouhani, on est à 686 par an. C'est vrai que les chiffres sont là. Alors, j'entends aussi ce que vous nous dites, il y a cette dynamique positive, mais le bilan est terrifiant
mais
pour Rouhani.
Mais pourquoi justement, écoutez, le bilan est terrifiant, c'est pas pour Rouhani, parce que Rouhani est président de la République, il n'est pas chef du judiciaire, qui lui est nommé directement par le guide, et il est de ce fait indépendant de l'exécutif.
Donc il n'a aucun pouvoir sur cette question-là, qu'il avait dit pendant sa campagne qu'il les ferait évoluer choses sur la question de la peine
capitale.
Écoutez,
mais justement, il ne faut pas oublier qu'en Iran, il y a énormément de tensions entre les conservateurs ultra, dont le chef du judiciaire, et les conservateurs modérés comme Rouhani et les réformistes, les 150 qui ont proposé par exemple de ne plus exécuter les trafiquants de drogue et de baisser le nombre des exécutions. Donc effectivement, ces exécutions sommaires de la part des ultra-conservateurs et des conservateurs qui président le pouvoir judiciaire et aussi les juges qui statuent, qui sont également très conservateurs, vont à l'encontre, si vous voulez, de l'élection d'un modéré qui avait fait une certaine promesse électorale, mais qui n'a pas pu les tenir, en tout cas pas pendant son premier mandat. Mais ce que je suis en train de dire...
Qu'en pense l'opinion iranienne, justement? Alors, l'opinion, il y a eu cet engagement pendant la campagne de Rouhani. Est-ce qu'elle est sensible au fait que, précisément, il ne tient pas son engagement sur ce point-là? Il y a d'autres points sur lesquels c'est difficile. Je pense, par exemple, à l'économie, où ça va quand même très mal, et où, pour le coup, là, il y a une vraie préoccupation peut-être encore plus forte que sur celle de la peine capitale. Mais est-ce que réellement, du côté de la société iranienne, on sent que c'est en train de devenir un sujet de préoccupation? Bien sûr. Ne parle pas des militants, des activistes, etc. Je parle des Iraniens en
général.
Je
vais vous dire quelque chose. Écoutez, là, en Iran, quelqu'un qui est, c'est ça la réalité, quelqu'un qui est condamné à la peine capitale pour un viol ou pour un meurtre, eh bien, la société, je ne parle pas des intellectuels, etc., mais la société est pour, la société iranienne n'est pas contre la peine capitale, pas encore. Raison pour laquelle les défenseurs des droits humains sont unanimes pour dire qu'on a encore un long chemin à faire, déjà, d'aller à l'encontre de l'existence même de la peine capitale. Je vais vous dire, attendez, je n'ai pas fini. On parle de la société iranienne, vous savez, il y a plusieurs cas, cette année, par exemple, 28 cas, si ma mémoire est bonne, d'exécution en public des meurtriers, des violeurs, etc. Et les gens, beaucoup de gens vont regarder ça. C'est aussi ça, je veux dire, pas tout le monde, bien évidemment, mais une partie de la société iranienne est encore acquise à la peine capitale.
Donc, le 22 septembre dernier, exécution dans un stade de football.
Ben voilà. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire un combat culturel contre la peine capitale. Bien sûr que c'est au judiciaire, il revient au judiciaire qui donne ces peines-là, qui condamne les gens à la peine capitale, de diminuer ces peines, voire de ne plus condamner. Mais en même temps, la société iranienne a besoin aussi d'un long travail sur elle-même pour aller à l'encontre de la peine capitale. Mais je vous rappelle qu'en 1981, quand en France la peine capitale a été abolie, 57% des Français étaient contre.
Eh bien, vous voyez, c'est un argument que je voulais rappeler. Vous avez raison.
Il faut le courage des hommes politiques et des femmes politiques pour aller à l'encontre de la peine capitale. Ce courage-là n'existe pas encore au sein de l'establishment iranien. En tout cas, là, le nombre des gens qui sont contre la peine capitale est vraiment très minime par rapport aux gens qui le défendent.
C'est ça la réalité. Effectivement, je voulais rappeler effectivement qu'en France, nous étions à l'époque, l'opinion française était à l'époque opposée à l'abolition. Sauf qu'on sait bien qu'en réalité, cette abolition, précisément, elle ne vient pas de la pression de la société civile. Voilà. Preuve en est pour l'exemple français. Donc ça veut bien dire qu'il faut une volonté politique. Absolument. Or, elle était là, avec Rouhani, et ça ne donne rien.
Non, parce qu'en France, encore une fois, c'est Badinter qui était ministre de la justice qui le décide et le gouvernement qui était d'accord. Aujourd'hui, le pouvoir judiciaire n'est pas d'accord, le président est d'accord. C'est ça le problème, si vous voulez.
Donc il n'a pas le pouvoir, il n'a pas la capacité de le faire.
Pas à lui seul, mais le Parlement, si. Le Parlement peut quand même faire comme les 150 députés l'ont fait, proposer des motions de loi et on voit. Ce que je veux dire, c'est que je vois que les choses sont en train de changer à partir de 2015.
Nader Vahabi.
Oui, alors, je voudrais réagir sur la société civile. Alors, la question de la peine de mort, c'est toujours un choix politique, une volonté politique. Pour moi, si la volonté politique de François Mitterrand en 1981, si le courage de, son ministre de la Justice, Badinter, elle n'était pas au rendez-vous, je ne pense pas que la société est française, parce que la France est un mauvais élève en ce qui concerne la question de l'abolition de la peine de mort. C'était le dernier pays dans l'Union européenne. Je reviens sur l'Iran. En ce qui concerne l'Iran, la société civile bouge énormément. Je vous envoie mon article il y a un an, 2014. J'étais intéressé par la question de pardon. Une enquête sous ma direction. Nous avons fait une enquête. Le nombre de pardons en 2013, en 2014. Selon les chiffres qu'on a eu auprès du ministère de la Justice en Iran, en 2014, il y a eu 375 personnes, parties civiles, qu'ils ont pardonné, les condamnés à mort, les dernières minutes. Qu'est-ce qui se passe réellement? Le problème est que dans le système judiciaire en Iran, à partir du moment où il y a un homicide volontaire, les parties civiles ont le droit de pardonner, et là, ça change, c'est-à-dire que le verdict va changer de la peine de mort en prison à vie. La scène la plus importante, c'était le 27 avril 2014. C'était dans une petite ville au nord de l'Iran. Les associations de la société civile sont intervenues auprès de cette famille. Et la famille, finalement, la télévision numéro 90, la chaîne la plus regardée en Iran. Ils ont pris une initiative et ils ont interrogé les parents de deux victimes et finalement la famille de deux victimes. Le jour de l'exécution, ils sont allés sur place. Il y a eu une immense joie ce jour-là dans cette ville. Ça montre que la société iranienne, il n'y a pas
de... Est en train de changer aussi.
En train de changer, c'est-à-dire que tant que... Contrairement en haut qu'il y a une volonté politique pour des raisons strictement politiques, pour instrumentalisation de la peine de mort, pour des raisons politiques, garde, comment dire, son cap. Mais en revanche, en bas, ça bouge, va. Je pense qu'il y a un élément extérieur international sous la pression internationale que le gouvernement iranien a décidé de collaborer avec la question des droits de l'homme, avec l'organisation, comment dire, des droits de l'homme. Et pour la première fois, je vous rappelle, après 8 ans, toujours l'État iranien n'a pas donné faveur pour, comment dire, le rapporteur des Nations Unies, Ahmad Shaheed, pour se rendre en Iran pour préparer un rapport.
Voilà un point sur lequel vous êtes d'accord, Nader
Rahbi et Azadeh Kian.
Le rapporteur a changé, mais le rapporteur
vit le breton pakistanais,
mais le gouvernement iranien toujours n'a pas donné faveur pour se rendre en Iran.
En tout cas, voilà un point sur lequel vous êtes d'accord, disais-je, le fait que ça bouge dans la société civile. Peine de mort, l'Iran, une frénésie morbide, c'est notre sujet ce matin. On est avec Azadeh Kian et Nader Vahabi.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Je vous propose de retrouver Mahmoud Amiri Mogadam, qui est porte-parole d'Iran Human Rights. C'est un médecin de formation, mais il est aussi avocat, il est défenseur des droits humains. Comment améliorer les droits humains en Iran? Quel rôle pour la communauté internationale? Comment peut-elle accompagner les demandes de changement, justement, qui émanent de la société civile, vous nous le disiez à l'instant? Et que peut l'Union européenne en la matière? On retrouve donc Mahmoud Amiri Mogadam. Il est au micro de Clément Saleza.
In Iran, in order to change a law in favor of the human rights, we need several mechanisms.
En Iran, afin de changer une loi en faveur des droits humains, on a besoin de plusieurs mécanismes. L'un d'entre eux est évidemment ce qu'il se passe en interne, la mobilisation de la société civile, des gens ordinaires. Mais cela, uniquement cela, ça ne peut pas marcher, car les autorités s'en fichent si c'est juste le peuple qui réclame quelque chose. En revanche, s'il y a une forme de pression internationale en même temps, là, ça peut influer. Une des raisons pour lesquelles le problème du trafic de drogue et de la peine de mort a suscité un débat à un très haut niveau en Iran, c'est du fait de tous les débats qui ont eu lieu aux Nations Unies et au sein de l'Union européenne à propos du nombre important d'exécutions, bien sûr, mais aussi à propos de la coopération entre l'Office des Nations Unies contre les drogues et le crime et l'Iran. Comme vous le savez, peut-être jusqu'à très récemment, des pays comme la France, l'Allemagne, l'Italie, le Danemark, l'Irlande finançaient cette coopération qui a tout simplement résulté en davantage d'arrestations et surtout plus d'exécutions. L'Irlande et le Danemark ont cessé ce financement il y a quelques années déjà, et là, d'après la dernière version du projet, en tout cas telle qu'elle a été présentée il y a quelques mois, aucun pays européen n'était disposé à financer cette coopération. Et cette pression ainsi que les mobilisations à l'intérieur de l'Iran, elles conduisent à ce que l'on a vu la semaine dernière, des députés résolus à débattre et changer la loi. Mais si la communauté internationale ne poursuit pas cette pression, cela peut changer. Et je sais que l'Union européenne va voter dans les jours à venir sur sa position sur l'Iran, et d'après ce que je sais, le volet sur les droits humains n'est pas assez fort. Si nous voulons un changement qui va dans le bon sens, il doit y avoir des conditions claires imposées à l'Iran, basées sur les droits humains. Toutes les conditions posées dernièrement par la communauté internationale à l'Iran ont concerné l'accord sur le nucléaire. Il n'y a rien eu en ce qui concerne les droits humains. Donc la voie est la suivante. Aider la société civile iranienne, c'est donner un écho à ces voix sur la scène internationale. L'Union européenne a une opportunité en or, en ce moment même, pour infléchir la situation des droits humains, et notamment concernant la peine de mort pour les petits trafiquants de drogue. Parce que l'Iran dépend de l'amélioration de ses relations avec l'Union européenne. Elle dépend de ses investissements. Et c'est le bon moment, précisément parce que des activistes sur place et des membres du Parlement veulent ce changement.
L'Union européenne a une opportunité en or pour accompagner les changements en matière de droits humains, nous dit Mahmoud Amiri Mogadam. Sauf que sur le terrain, les activistes font toujours l'objet d'une forte répression. C'est le cas, par exemple, pour Narj Borges Mohammadi, qui est avocate, qui est journaliste et directrice du Centre pour les défenseurs des droits humains. Au lendemain d'une rencontre avec Catherine Ashton, l'ancienne chef de la diplomatie européenne, elle a été arrêtée. Aujourd'hui, elle est condamnée à la prison ferme, notamment pour sa collaboration avec l'association Legam, qui milite pour l'abolition progressive de la peine de mort. Mahmoud Amiri Mogadam, donc le porte-parole d'Iran Human Rights Watch, a travaillé en lien étroit justement avec cette association Legam, et il connaît très bien sûr, Narges Mohammadi. On l'écoute.
One of her charges was because of her meeting with Catherine Ashton.
C'est une des raisons pour lesquelles les autorités ont été si sévères avec elle, cette rencontre avec Catherine Ashton. Vous pouvez voir que les activités de Narges Mohammadi ont été complètement pacifiques et malgré cela, elle a été condamnée à 16 ans de prison, 10 rien que pour avoir lancé une campagne contre la peine de mort. Et vous savez, cette campagne lancée par Legam était une campagne pacifique dont le but était de progressivement, pas à pas, abolir la peine de mort. Et elle ne faisait même pas partie des fondateurs de Legam. Et ça, c'est bien révélateur de l'importance que revêt la peine de mort en Iran. Cela va au-delà d'un engagement judiciaire pour combattre les crimes. Le but de la peine de mort en Iran, et nous étudions l'Iran depuis 15 ans maintenant, n'est pas de lutter contre les crimes, contre le trafic de drogue ou la violence, car il a été prouvé qu'elle n'avait pas eu d'effet dissuasif. Le but de la peine de mort, c'est faire peur au peuple qui voudrait protester. Quand les autorités voient beaucoup d'activités parmi la société civile, le nombre d'exécutions augmente. Dernièrement, vous avez probablement dû en entendre parler, un jeune homme a été exécuté dans un stade. C'est quelque chose que seuls les talibans ou Daesh ont fait auparavant. Et nous avons demandé à la FIFA de réagir, de protester, parce que nous avons besoin d'une pression durable en ce qui concerne les droits humains. Donc j'espère que l'Union européenne posera ses conditions pour travailler avec l'Iran. La première pourrait être d'arrêter toutes les exécutions pour des faits de drogue jusqu'à ce que la loi soit changée. Ou bien encore que soient interdites les exécutions publiques. Vous savez, quand ces gens sont exécutés publiquement, c'est face à des enfants bien souvent. Donc ce n'est pas seulement une personne qui a commis un crime qu'on punit. C'est une punition collective pour toute la société.
Et d'ailleurs, la FIFA a réagi justement dans un communiqué à propos de cette exécution dans un stade. On entendait Mahmoud Amiri Mogadam, donc porte-parole et cofondateur de Iran Human Rights Watch. Nader Vahabi, il nous disait à l'instant, le but de la peine de mort, c'est de faire peur au peuple.
Exactement, je défends cette hypothèse-là. Et comment dire, à travers mon article, obstacle structuré de la libération de la peine de mort, j'ai essayé de montrer à travers 6 étapes de la peine de la mort depuis l'avènement de la République islamique. Si vous me permettez, je vais citer les 6 étapes très très brièvement. La première étape, c'était les militants, c'était des autorités politiques du régime de Shah, juste 2 jours, 3 jours après la révolution. Selon mon enquête, il y a eu à peu près 495 personnes ont été exécutées 4 mois, 5 mois après la révolution. Deuxième étape, c'était, 7 juillet 1979, suite à un coup d'État Nouger, fomenté par certains militaires de l'ancien régime, il y a eu à peu près 200 exécutions au camp de l'ancien régime, tendance royaliste, etc. Le troisième, c'était la minorité religieuse. Et le quatrième, c'était, des exécutions de masse, en 1988, avec une fatwa. Et cinquième, c'était l'élimination des minorités baïes, certains chrétiens, certains sunnites, etc.
Ok, l'idée, c'est que c'est un outil de répression, clairement. Azadekian.
Oui, bien sûr. Enfin, exécution, c'est bien évidemment un outil de répression, mais en même temps, c'est un outil outil de répression en Iran. Mais c'est un outil, encore une fois, qui est utilisé pour intimider la population. Je voudrais aussi juste dire 2 mots sur le code pénal iranien après la révolution, qui est calqué sur, je le disais, sur un modèle islamique et qui parfois, et pour ne pas dire souvent, ne correspond même pas à ce qui est écrit dans le Coran. J'ai travaillé il y a plus d'une dizaine d'années sur la lapidation, par exemple, pour adultère. Cette peine n'existe pas dans le Coran, mais ça existe dans le code pénal iranien. Mais ce que je voudrais dire, c'est que je trouve que ce code pénal est profondément inégalitaire. C'est-à-dire que si, indépendamment des exécutions, si vous êtes riche et que vous tuez quelqu'un, vous avez des moyens financiers, vous pouvez acheter le pardon de la famille de votre victime, ou alors si, par exemple, dans un accident de voiture, vous provoquez les dégâts, etc., ça, vous serez pas puni parce que vous serez pardonné parce que vous avez les moyens financiers d'acheter la victime, le consentement de la victime ou de sa famille. En revanche, si vous êtes pauvre et que vous tuez un riche, là, vous serez exécuté. Vous serez exécuté. Donc, moi, mon problème, c'est pas seulement, oui, bien évidemment,
comprends. Mais au-dessus du principe hiérarchique, il y a aussi la question des inégalités sociales et économiques.
Non, ce code pénal renforce et accentue. C'est-à-dire qu'il faut aussi penser à ça. Il ne suffit pas de dire arrêter les exécutions. Ça, bien évidemment, on est tous et toutes d'accord. Mais en même temps, il faut changer ce code pénal qui est absolument à l'encontre de l'égalité que les gens doivent avoir devant la loi en ce qui concerne l'exécution de la loi. Parmi ces personnes exécutées, je ne parle pas des prisonniers politiques ou des exécutés pour peine politique, mais pour le droit commun, combien de riches il y a parmi ces exécutés-là ? Il n'y en a pas. C'est-à-dire que ce sont des petits trafiquants, ce sont des moyens trafiquants, ce ne sont pas des grands trafiquants de drogue, ce n'est pas la mafia qui est exécutée.
On entend très bien, et c'est évidemment un point extrêmement important. Je voudrais qu'on s'intéresse à un fait, s'il vous plaît, qu'on avance un tout petit peu, Nader Bahabi, à quelque chose qui, dans l'imaginaire iranien, est extrêmement fort. Le 9 août dernier, il y a un document qui a été mis en ligne sur le massacre qu'on appelle des 30 000. Alors j'explique pour les auditeurs, on est à l'été 1988, l'Iran organise l'exécution de plus de 30 000 prisonniers politiques à l'intérieur des prisons iraniennes. Quelques jours après la fin de la guerre en Irak, l'ayatollah Khomeini émet un décret religieux. Il ordonne l'exécution de tous les moudjahidines du peuple emprisonné. On met en place une commission qu'on surnomme la commission de la mort. On organise des comités d'exécution composés d'un juge islamique, d'un représentant du ministère de l'intelligence et d'un procureur. On pose quelques questions aux prévenus. Est-ce que tu es fidèle à la République islamique? Est-ce que tu fais tes prières? Est-ce que tu veux coopérer? Etc. Et puis, à l'issue de son audition, on procède à son exécution, souvent par pendaison. Il y a quelques jours, je le disais, donc il y a un document qui a été mis en ligne. C'est un document, c'est une archive. On est le 15 août 1988, c'est Hossein Ali Montaziri qu'on entend. C'est l'ancien dauphin désigné de Khomeini. Il s'adresse aux membres justement de la commission de la mort venus le voir.
De mon point de vue, les plus grands crimes qui ont été commis en la République islamique d'Iran depuis la révolution jusqu'à nos jours l'ont été de vos mains, ceux d'entre vous qui travaillez pour la justice. Alors si on me demandait de recommander quelqu'un, je vous nommerais vous, Monsieur Nayeri et Monsieur Eshraki. Vous êtes des hommes honorables et religieux. Mais selon moi, le plus grand crime commis sous la République islamique d'Iran, celui pour lequel l'histoire nous condamnera, a été commis de vos mains. À l'avenir, assurément, l'histoire inscrira vos noms en tant que criminels.
Voilà, un enregistrement qui a été rendu public il y a quelque temps, le 9 août dernier, je le disais, rendu public par le bureau officiel de l'ayatollah Hossein Ali Montaziri, qui est donc l'ancien dauphin de Khomeini. Montaziri tient des propos absolument saisissants sur le massacre de plus de 30 000 prisonniers, je le disais, en 1988, sur ordre de Khomeini. C'est un enregistrement qui, par ailleurs, a été supprimé, évidemment, très très vite sur insistance du ministère des Renseignements. C'est ce que dit, en tout cas, le fils de Montaziri. Trois mois, 30 000 personnes qui sont exécutés à mort, dans l'impunité la plus totale, c'est plus des condamnations à mort, c'est quasiment un crime contre l'humanité. Moi, ce que je voudrais comprendre, c'est que dans ces fameuses commissions de la mort, on a un homme qui s'appelle Mostafa Pour Mohammadi, qui est le ministre de la Justice aujourd'hui. Aujourd'hui. Comment comprendre qu'un homme comme Hassan Rouhani, dont on a dit qu'il était le président de l'ouverture en 2014, quand il a été élu, comment est-ce qu'il a pu faire venir dans son gouvernement un tel homme, compte tenu de son implication dans cette affaire?
Je pense que y a un certain ministère qui sont des ministères régaliens et que le guide Khamenei a tout à fait son mot à dire pour le choix de ses ministres. Et ça a été systématique depuis le début de la révolution jusqu'à aujourd'hui. Donc le président iranien peut proposer, le parlement doit voter pour les ministres proposés, mais avant même de proposer certains ministres, pas tous, par exemple, ministère de l'enseignement supérieur, ça pose pas tellement de problèmes aux guides. En revanche, certains ministères comme justice, comme justement renseignement, etc., sont des ministères
directement nommés par le guide suprême.
La guide de ministère de la guidance islamique, tout ça, doivent être soit nommés par le guide, soit en tout cas avec l'avis favorable du guide. Ça, c'est l'une des raisons où effectivement, même sous Khatami réformateur, parce que Rouhani n'est pas réformiste, hein, il est conservateur modéré, mais même sous Khatami, souvenez-vous, on avait ce type de ministre qui avait été imposé à Khatami par le choix du guide.
Est-ce que vous pensez que Mostafa Pour Hamahmadi, donc le ministre de la Justice, pourrait faire l'objet de poursuites judiciaires ?
En Iran ?
Oui.
En Iran, pour le moment.
Impossible.
Écoutez, tout est possible en Iran. Je vais vous dire, par exemple, je vais vous donner l'exemple de M. Murtazavi. Murtazavi qui était procureur de Téhéran et qui a eu beaucoup d'autres responsabilités très importantes et qui est responsable de la mort de au moins 4 jeunes issus du mouvement vert qui ont été torturés dans la prison de Karizak et sous l'ordre de Murtazavi. Il a été obligé d'écrire une lettre de pardon, de demander pardon récemment aux familles de ces victimes, pardon qui n'a bien évidemment pas été accepté. Ce que je veux dire, encore une fois, c'est que tout est possible en Iran, mais c'est pas pour demain. Je ne pense pas que Pour Mohammadi pourra être, par exemple, condamné pour les meurtres qu'il a commis demain en Iran.
C'est pas pour demain, mais peut-être que ça pourrait être pour après-demain, Nader Vahebi. Ça sera peut-être ma dernière question, parce qu'on comprend très bien, Adekian nous le dit, que finalement, il n'a pas véritablement le pouvoir de nommer un certain nombre de personnes, et dont ce ministre de la Justice. C'est le guide suprême qui le fait. Or, ce guide, on le sait, il est en très mauvaise santé. Il est question, évidemment...
On ne le sait pas, nous. Ça fait 20 ans qu'on dit que le guide est en mauvaise santé.
En tout cas, c'est ce qui se dit. Et il y a quand même eu, l'année dernière, Azadekian, l'ancien président Rafsanjani, qui a brisé un tabou en déclarant publiquement qu'il y avait une commission qui était chargée d'examiner un certain nombre de candidats potentiels pour sa succession. Donc ça veut bien dire que même au plus près du guide, on se pose cette question-là. Hein? Non mais voilà, Nader Vahebi, est-ce que la révolution, la nouvelle révolution, elle ne viendra pas par ce changement-là.
Oui, c'est un grand problème. Comment dire? D'ailleurs, donc, on a soulevé ce problème de guide suprême en 2009. Il y a eu cette proposition de la part de deux figures emblématiques du mouvement vert, Karoubi et Mir Hossein Mousavi, ont proposé un conseil de guide suprême, une étape importante pour la
transition. Donc, un collège de religieux
pour une transition démocratique. À ma connaissance, actuellement, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que là, pour Mohammadi, même, je vous rappelle, dans son entretien, il y a 2 semaines, après suite à, comment dire, le truc de sonore de Ayatollah Montazeri, il est revenu, il a dit que j'ai le honneur d'être parmi les membres de groupe d'exécution en 1989. Non seulement lui, même président Khatami, les autres présidents, même Rouhani, jamais ils n'ont pas revenu, ils n'ont pas fait, comment dire, un pardon devant les victimes de cette histoire, que ça reste très très problématique dans la mémoire collective des Iraniens.
Je voudrais qu'on se tourne désormais vers l'Arabie Saoudite. Au début de l'année, les tensions entre Riyad et Téhéran, qui étaient déjà très mauvaises, se sont aggravées. L'ambassade d'Arabie Saoudite à Téhéran avait été incendiée. En retour, Riyad avait demandé au personnel diplomatique iranien de quitter le pays, ce qui était quand même une première depuis 1988, justement. En cause, l'exécution quelques jours plus tôt d'un haut dignitaire chiite, Nimr al-Nimr, qui est une figure de proue, qui était une figure de proue des manifestations réprimées en 2011-2012, dans la province orientale du pays à majorité chiite.
Si Dieu le veut, la lignée des Saouds sera renversée par le sang du martyr al-Nimr et l'État islamique que l'Arabie Saoudite a soutenu dans les pays islamiques se retournera contre les Saoudiens et les renversera.
C'est un grand crime et une erreur, parce que ce sang va imprégner leurs vêtements. Je n'ai aucun doute à ce sujet. Que les hommes politiques saoudiens n'en doutent pas non plus, ce sang va imprégner leurs vêtements, les tourmenter. Cela va les mettre à genoux.
« Voilà, c'est Ali Khamenei qu'on entendait à l'instant. Ce religieux, donc Nimr al-Nimr, a été exécuté en même temps que 46 autres personnes, dont certains chiites, mais il y avait aussi des militants radicaux sunnites. C'était la plus importante exécution de masse depuis 1980. Bonjour Laurent Bonnefoy.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes chargé de recherche au CNRS, membre du CERI, un spécialiste de cette péninsule arabique contemporaine. L'exécution du cheikh chiite par un bourreau saoudien, elle a été évidemment très mal perçue par Téhéran. Le guide suprême l'a comparé aux exécutions menées par Daesh. Comment comprendre cette exécution? Est-ce qu'il s'agit d'une affaire intérieure, c'est-à-dire en gros la nécessité pour Riyad de contenir l'opposition chiite? Est-ce qu'il s'agit également de quelque chose qui peut, qui doit se lire comme un message à l'adresse de Téhéran? Ou est-ce qu'il s'agit de façon plus pragmatique, j'allais dire cyniquement, c'est tout simplement l'application d'une loi chariatique qui s'impose à tous, Laurent Bonnefoy.
Alors c'est toujours difficile hein, de rationaliser un geste, notamment quand on imagine bien qu'il y a tout un tas d'acteurs qui sont partie prenante d'une décision. Toutefois, on peut dire qu'il y a effectivement la relation irano-saoudienne qui structure une large part de ces décisions-là, notamment dans le contexte de l'amélioration des relations entre l'Iran et puis les États-Unis. Mais au-delà de ça, il y avait également un message intérieur fort, et vous l'avez souligné, parmi les 47 exécutés, en fait, il n'y en avait que 4, si je puis dire, qui étaient des militants chiites. Le reste était des militants djihadistes et notamment une figure qui s'appelait Fares al-Zahrani qui avait été un des idéologues du djihad au début des années 2000 et cette exécution était en fait la première depuis très longtemps de militants djihadistes sunnites et on peut raisonnablement penser que d'une certaine manière c'est l'exécution de Nimr al-Nimr et puis des trois autres militants chiites devait aider à faire passer la pilule auprès de l'aile sunnite militante qui apparaît comme une menace bien plus importante pour la monarchie que les militants chiites.
Laurent Bonnefoy, le neveu de Nimr al-Nimr, il a également été condamné à mort pour sédition, désobéissance au souverain et port d'armes par un tribunal de Riyad. Depuis septembre 2015, donc, il est condamné à la décapitation et à la crucifixion. Il est accusé donc d'avoir participé aux manifestations de 2011 pendant le printemps arabe alors qu'il avait 17 ans, il était donc mineur. Et aujourd'hui, il se trouve qu'il est toujours en vie. Pourquoi? Est-ce qu'il faut y voir une conséquence de la campagne de soutien dont il a bénéficié, François Hollande par exemple, mais aussi Manuel Valls, mais aussi par exemple le chef de l'opposition britannique, Jeremy Corbyn, se sont prononcés pour demander qu'il ne soit pas exécuté. Et derrière cette question, il y a la question plus générale de savoir quel est l'effet, finalement, de la pression internationale sur Riyad, sur cette question de la peine de mort, Laurent Bonnefoy?
La pression internationale joue sans aucun doute. Et puis, j'ajouterai également le cas de Raif Badawi, vous savez, ce blogueur libéral qui avait été condamné à 10 ans de prison et 1000 coups de fouet, qui en a subi que, pour ainsi dire, 50, avec à chaque fois, d'une certaine manière, une remise à plus tard de ces châtiments corporels il est à mon sens indéniable que l'Arabie Saoudite est sensible, enfin, le pouvoir saoudien est sensible à toutes ces pressions, d'autant plus que ces pressions arrivent dans un contexte qui est, je l'ai dit, assez difficile avec du point de vue géopolitique pour l'Arabie Saoudite qui estime que son alliance avec avec les États-Unis se trouve fragilisée, que l'engagement au Yémen également constitue une source de pression supplémentaire. On l'a vu ce week-end avec le bombardement d'une veillée funèbre qui a fait 140 morts à Sanaa. L'ensemble de ce contexte-là fragilise très largement la position saoudienne. Et on sait qu'ils y sont malgré tout sensibles. On le voit avec l'émergence d'un nouveau leadership autour de Mohamed bin Salman, ce jeune ministre de la Défense.
Alors, justement,
qui veille à fournir une image plus libérale sur le plan notamment économique et plus moderne de la société.
C'est là où je voulais en venir, parce que quand on regarde le nombre de personnes exécutées en Arabie Saoudite chaque année, alors il est assez loin de celui de l'Iran, il était de 158 pour 2015, c'est ce que dit le rapport d'Amnesty International. Mais ça reste quand même le nombre le plus élevé enregistré en une seule année depuis 1995, donc depuis 20 ans. Et ça risque visiblement de s'aggraver pour 2016, puisqu'on est déjà à une centaine, alors qu'on est un tout petit peu plus de la moitié de l'année. La question, c'est comment est-ce qu'on peut comprendre cette recrudescence d'exécution? Là aussi, on parlait tout à l'heure de l'Iran, on voit qu'elle existe aussi du côté de l'Arabie Saoudite. Alors, il y a ce nouveau pouvoir qui est installé à Riyad depuis la mort du roi Abdallah, remplacé par le roi Salman, même si on sait, et vous l'avez déjà dit, que l'homme fort, en réalité, c'est le prince Mohammed Ben Salman, qu'on appelle MBS, qui s'est imposé comme, finalement, celui qui, aujourd'hui, est au cœur du pouvoir. Est-ce qu'on peut émettre l'hypothèse selon laquelle, finalement, l'accélération des exécutions, c'est le fait d'un nouveau pouvoir qui essaye d'asseoir sa légitimité par la force?
Oui, partiellement, il y a bien cet élément d'imposition d'un nouveau pouvoir, mais il y a surtout, je pense, des considérations internes ou on va dire régionales liées à notamment des pressions qui peuvent être exercées par la frange la plus conservatrice, l'aile sunnite militante, qui a une volonté aussi, d'une certaine manière, de résister ou de mettre la pression sur le pouvoir. Et donc on a tous ces jeux-là que nous, depuis l'Europe, on ne perçoit pas nécessairement, mais qui jouent un rôle très important dans le positionnement et dans ce que finalement la monarchie elle-même autorise. C'est-à-dire que l'alliance qui a été nouée avec l'establishment religieux pèse très lourd, je pense, dans cette logique-là d'imposition d'un régime plus sévère, de lois qui apparaissent comme comme beaucoup plus répressives. Et je dirais que la pilule, elle passe d'autant mieux ou elle est d'autant plus importante à faire passer, que il y a bien la mise en place d'une répression qui vise aussi les militants sunnites.
Merci beaucoup Laurent Bonnefoy. Donc on comprend très bien que dans le cadre de cette Arabie Saoudite, c'est donc l'alliance avec les dignitaires religieux qui oblige d'une certaine manière le pouvoir à être aussi répressif et à autant finalement exécuter. Donc il y a un vrai parallèle évidemment avec la question iranienne. Merci beaucoup Laurent Bonnefoy qui était avec nous à l'instant par téléphone. Un grand merci à vous Azadeh Kian et Naber Vahami de nous avoir accompagnés, de nous avoir éclairés sur cette délicate question de la peine de mort qui est encore évidemment... Il y a encore beaucoup de choses à faire, on l'entend, mais on va essayer de retenir ce message que vous aviez l'air tous les deux, même si vous avez eu des points de désaccord tous les deux, de délivrer, à savoir qu'il y a des évolutions dans l'opinion iranienne.
Société civile.
Merci beaucoup.
Et que pression et négociation entre l'Europe et l'Iran peut aller vers la diminution des peines capitales en Iran.
Merci infiniment à tous les deux. من طرفای افریقا عروضشون نوروزه، آخه اینجوری حساب بکنی پر آدی فیروز. Voilà, c'est avec ce rap iranien que l'on tourne notre page et qu'on en ouvre une autre, celui des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors nous avons vu hier comment le modèle de démocratie illibérale théorisé et mis en pratique en Hongrie par Viktor Orban inspirait désormais aussi la Pologne. Comment se caractérise ce tournant autoritaire et à quoi est-ce qu'on peut l'attribuer, Brice ?
Eh bien par un refus radical et obstiné de respecter ce principe de base de la démocratie libérale que les anglo-saxons appellent check and balance et que nous rendons approximativement en français par l'équilibre des pouvoirs. Mais l'anglais est plus précis, qui comporte, outre la notion d'équilibre, celle de contrôle, de vérification, tout check. Dans leur pratique gouvernementale, ces gouvernements refusent et cet équilibre des pouvoirs et cette vérification que leur action s'inscrit bien dans le cadre des lois fondamentales. Les régimes mis en place par messieurs Orban et Kaczynski se caractérisent d'abord par un déséquilibre des pouvoirs, au profit de l'exécutif, et au détriment en particulier du judiciaire. En Pologne, la position de procureur général a ainsi été supprimée, et c'est le ministre de la Justice qui nomme personnellement les procureurs. En Hongrie, le président du Bureau national judiciaire a la haute main sur les nominations et la carrière des juges. L'indépendance de la magistrature n'existe plus. En Pologne, en outre, le Conseil national judiciaire, le KRS, a payé l'appui qu'il a apporté dans le passé au tribunal constitutionnel. Car dans les deux pays, on a assisté à une attaque en règle du pouvoir contre les cours constitutionnelles. Ces régimes ont en commun de ne tolérer aucune entrave à ce qu'ils considèrent comme leur mandat. Or, le contrôle réciproque des pouvoirs et l'existence d'une norme juridique suprême, la Constitution, sont essentiels aux yeux de l'Union européenne. Et Viktor Orban, comme Jaroslav Kaczynski, entend précisément gouverner sans contrôle. Le Premier ministre hongrois a qualifié l'existence d'une Cour constitutionnelle d'invention américaine. Et l'éminence grise du gouvernement polonais a traité les membres du tribunal constitutionnel de Varsovie d'ayatollah. En Hongrie, le Fidesz a disposé de la majorité qualifiée des deux tiers au Parlement dès sa victoire électorale de 2010. Orban s'est empressé de faire voter une nouvelle mouture de la loi constitutionnelle qui comporte notamment un élargissement de la Cour constitutionnelle. Il a suffi d'ajouter 4 nouveaux membres, choisis bien sûr par le Premier ministre, pour qu'Orban y dispose d'une majorité à sa main. En passant, il a également modifié la loi électorale afin d'amplifier la majorité parlementaire du parti arrivé en tête et d'en faire profiter sa propre formation. En Pologne, Kaczynski, qui a la rancune tenace, se souvenait que le tribunal constitutionnel de Varsovie avait censuré plusieurs des lois adoptées lors du premier passage d'un gouvernement droit et justice en 2006-2007. Il a donc été décidé de neutraliser cette instance. Mais sa majorité électorale au Parlement était moins écrasante que celle d'Orban en Hongrie. Il n'a pas été possible de faire adopter une nouvelle constitution, alors même que Kaczynski prétend changer de république. La manœuvre a consisté à refuser d'entériner les nominations des juges constitutionnels décidées sous la précédente législature et de les remplacer par des personnalités acquises au nouveau pouvoir. Mais cela n'a pas suffi à lui procurer la mainmise sur l'instance. Le gouvernement a alors imaginé toutes sortes de procédés destinés à bloquer ou à retarder le contrôle de constitutionnalité des lois. Les deux pays ont fait l'objet de remontrances précises de la part de la Commission européenne d'une part et de la Commission de Venise, ce conseil juridique du Conseil de l'Europe. Ils n'en ont tenu à peu près aucun compte. À la limite, ces interventions s'avèrent d'ailleurs contre-productives car elles sont présentées par les dirigeants des deux pays comme d'intolérables ingérences étrangères.
Alors si le troisième pouvoir, le judiciaire, est neutralisé, qu'en est-il dans ces deux pays du pouvoir législatif ?
Oh, le Parlement se réunit librement et les députés de l'opposition ne sont pas inquiétés. Mais les chambres sont réduites à la fonction d'enregistrement des décisions du gouvernement. Les lois nouvelles sont présentées dès les premières semaines de la législature à une cadence folle et votées dans la précipitation par les godillots du parti gouvernemental. L'opposition est marginalisée, situation dangereuse, car les frustrations s'expriment dorénavant dans la rue. On l'a vu tout récemment à Varsovie, où le gouvernement a été contraint de reculer sur la question de l'avortement face à une énorme mobilisation des femmes. Mais il y a un autre aspect de cette offensive illibérale à laquelle je suis personnellement sensible. C'est le passage progressif un recrutement de la haute fonction publique sur le modèle américain du spoil system, autrement dit l'abandon progressif de la sélection par concours remplacé par des nominations sur critères politiques. Or, j'ai enseigné il y a une vingtaine d'années à la Krajowa Szkoła Administracji Publicznej de Varsovie, cette école de l'ENA polonaise qui avait été créée par le premier gouvernement démocratique de Pologne, celui de Tadeusz Mazowiecki, afin de mettre fin au monopole du parti communiste sur le recrutement des hauts fonctionnaires. Je n'imaginais pas un tel retour en arrière.
Merci beaucoup, Brice Couturier. On poursuivra bien sûr toutes ces questions autour de la démocratie libérale dans vos prochaines chroniques. Ça sera dans le courant de la semaine. Dans un instant sur France Culture, c'est La Grande Table avec Olivia Gesbert.